le titre de la pensée, c'est que tes blessures peuvent te stopper ou te propulser. J'ai beaucoup prié pour ce message. Romaric le sait. En général, moi, je suis quelqu'un qui prépare mes messages peu de temps avant la prédication. C'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Là, ça fait vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines que j'ai ce message dans mon cœur. Et en fait, je regardais dans la parole de Dieu. Tous les hommes et femmes de la Bible ont vécu des moments où ils ont voulu tous arrêter. Tous. En fait, j'ai essayé d'en trouver un qui est tout le temps encouragé. Ben, il n'est pas dans la Bible. Pourquoi ? Parce que la Bible parle d'êtres humains. Et les êtres humains sont comme ça. Des fois, ils sont très hauts, en général le dimanche après le culte. Et des fois, ils sont très bas le lundi matin. Et en fait, quand tu regardes dans la parole de Dieu, partout on voit des femmes, des hommes qui vont vivre des défis émotionnels, des blessures, des incompréhensions, des trahisons, des abandons. Et ça va les frapper. Et à des moments donnés, ils veulent arrêter. La Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le malheur. Il n'y a pas écrit le malheur éventuellement, potentiellement, dans un bon jour, va peut-être arriver sur ta route. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Waouh, c'est encourageant ça. Hein? Mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est notre réalité. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que j'ai eu une immunité. En fait, je vais t'expliquer une chose. C'est parce que tu es devenu chrétien, ton cœur est redevenu un cœur de chair. Donc ton cœur est plus facilement blessable qu'avant. Et c'est une bonne nouvelle. Mais une fois qu'on est plus blessé, qu'est-ce qu'on fait? On est plus triste alors. Non, il faut qu'on apprenne à inviter plus Dieu dans ce cœur pour que on puisse continuer à avancer et que nos blessures ne deviennent pas des portes de prison qui nous enferment. La Bible dit ceci à Gethsémané, que les disciples étaient endormis de tristesse. Je ne sais pas si vous réalisez, chaque événement de ma vie, lorsqu'il vient me frapper, lorsqu'il se présente sur ma route, il va avoir un impact immédiat. Il n'y a, vous savez, la tristesse, lorsque tu vis une incompréhension, une trahison, qu'importe ce que tu peux vivre, mais à chaque fois que tu vis une chose, ce n'est pas juste un événement lambda, c'est quelque chose qui rentre en toi et qui te blesse dans ton âme, dans ton être émotionnel. Les émotions, c'est important. Qui a des émotions ici? On en a tous, même ceux qui rient pas devant les spectacles comiques comme moi. On rigole des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne prends pas au sérieux, ne comprends pas comment ça travaille en toi, tu vas être juste un paquet d'émotions, de blessures. Bien sûr, tu demandes à Dieu de te guérir, de te relever, mais tu les trimbales avec toi et finalement, tu vis que la première partie de ce verset que j'ai lu beaucoup, de malheur atteigne le juste. Mais la suite dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, le juste est frappé par les malheurs, mais le rôle de Dieu, c'est de te délivrer. Et nous, on pense toujours en termes de circonstances. Je veux te dire qu'il est beaucoup plus simple d'avoir la victoire sur une circonstance que d'avoir la victoire sur une blessure qui est en toi. Parce qu'une circonstance, elle peut changer. Nous, on n'avait pas de travail. À la maison, il fallait un salaire. Céline a fait ce qu'il fallait. Il y a eu la faveur de Dieu. La circonstance a changé. Mais tu comprends une chose. Si tu es blessé dans ton âme, même si tu trouves un travail, la circonstance peut changer, mais toi, tu es toujours en prison. Et la plus grande puissance spirituelle provient du cœur, la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui dépendent toutes les sources de la vie. Un cœur brisé, un cœur blessé ne pourra pas produire ou avoir accès aux sources de la vie. Et tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire partie de la plus belle église. Si ton cœur n'est pas traité, la source de la vie à laquelle tu t'abreuves, eh bien, elle est polluée. C'est pour ça, ce n'est pas juste une question. Vous savez, moi, des fois, on m'a dit, tu dois pardonner, tu dois aller plus loin, tu dois avancer. C'est faux tout ça. Si tu fais les choses parce que tu dois, mais que tu ne les vis pas, c'est un problème. Est-ce que ça vous est, bon, vous savez peut-être que ça vous est pas arrivé, mais moi ça m'est arrivé. Par exemple, d'avoir été blessé et d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, je lui pardonne. Je lui ai pardonné, mais j'étais toujours blessé. Ce qui fait quoi quand tu es blessé? C'est que ton comportement change. Une blessure te change. Le Saint-Esprit te change. Mais une blessure, ça te change. Quand tu commences à te dire, je vais être un peu sur la réserve, je vais plus me donner comme avant, je vais plus donner aux autres comme avant, on m'y reprendra plus, ou je vais prendre un peu de distance. Tous ces mots-là, ce sont juste la manifestation de blessures. C'est tout. Tu es transformé par ce que tu vis. Et ces blessures peuvent être soit une prison, mais Dieu, et on va le voir ensemble, veut en faire des portes pour que tu ailles plus loin. Parce que la Bible ne veut pas qu'au fur et à mesure des années, on devienne de plus en plus dur. Elle veut qu'on devienne de plus en plus tendre. Et oui, on sera encore blessé, mais on doit apprendre à ne pas se laisser enfermer par nos blessures, à être guéri de nos blessures, mais surtout à devenir qui on doit devenir. Même si tu es imparfait, et même si tu es blessé, Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas les parfaits qui hériteront le royaume des cieux. Eh oui, c'est les imparfaits. Parce que quand tu lis les béatitudes, tu vas te rendre compte, par exemple, quand il est dit « heureux les pauvres en esprit », il n'est pas écrit « heureux les, je sais pas, les Jedi de la force ». Ok ? Non, c'est les pauvres en esprit, c'est des gens qui n'ont pas tout, mais ils peuvent être heureux parce qu'ils attrapent quelque chose dans le royaume de Dieu. Donc, attention à notre cœur, nous devons veiller sur notre cœur. Je veux, avant de rentrer pleinement dans le message, juste poser le décor, mais deux autres choses à vous dire. Je parlais de la tristesse. Vous imaginez, les disciples étaient accablés de tristesse. Jésus va les voir, ils dorment, il y a une manifestation physique d'un état émotionnel. Tout ce que tu vis a une manifestation. Tout. Parfois, on est là, on se dit, je suis triste en ce moment, j'ai pas le moral, ça va pas. C'est des états émotionnels. Et on oublie, et parfois on ne fait pas le lien entre ce qu'on a vécu et notre état d'aujourd'hui. Nous avons tous un capital émotionnel. Moi, plus je vieillis, plus je pleure. Ça vous arrive à vous aussi qui vieillissez? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un capital émotionnel. C'est pas illimité. C'est pas la vie, tu peux pas juste encaisser, et tout va bien. À un moment donné, tu te retrouves à sec si tu es pas renouvelé. T'as qu'un cœur, hein. Et donc, on a besoin d'être renouvelé. Mais ce qui me challenge le plus, c'est que les disciples sont accablés de tristesse. Jésus n'a pas chassé l'esprit de tristesse. Nous, on veut chasser les esprits parce que c'est plus simple. Vous savez, quand il y a un mauvais esprit, ça existe, hein. Dis à personne à côté de toi, ça existe, hein, les mauvais esprits. Mais quand il y a un mauvais esprit et que tu le discernes, tu prends autorité dans le nom de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, un mauvais esprit, ça bataille un peu, des fois c'est un peu plus long ou pas, mais il s'en va. Mais une blessure, elle doit guérir. Et la guérison, c'est un peu plus long. Et les disciples vont changer dans leur vie, vont vivre une transformation quand? À la Pentecôte. D'abord, ils ont eu la nouvelle de la résurrection, mais leur esprit est tellement endormi que la majorité ne croit même pas. Et c'est à la Pentecôte où ils vont devenir qui ils doivent être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas négliger ce que tu vis parce qu'il y a des puissances spirituelles qui s'y rattachent. Si en ce moment ta vie spirituelle est peut-être un peu molle, peut-être un peu faible, eh ben des fois, ça veut pas dire qu'il faut faire de l'introspection, mais parfois, tu peux juste regarder et dire, tiens, en fait, ça fait un an que je suis comme ça, mais ça correspond à tel événement dans ma vie. Parce qu'il y a des tristesses qui peuvent être connectées à des blessures. Et c'est le cas pour les disciples. C'est pas un état, il faut que ça change alors. On peut pas rester comme ça. Parce que sinon, tu t'endors. Et tu peux entendre le pasteur Romaric qui te fait des messages, qui crie sur toi. Tu peux avoir tout le groupe de louanges. Si ton âme est spirituellement endormie à cause de la douleur, il faut être guéri pour te réveiller. C'est comme ça. J'ai essayé d'avancer sans régler les dossiers. Tu ne peux pas avancer dans ta vie si tu ne règles pas les vieux dossiers. Je vais même te dire, si tu ne règles pas les vieux dossiers deviennent encore plus compliqués avec les années. Dieu veut régler les dossiers. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut régler tes vieux dossiers. Tout ce que je vis a un impact spirituel. Maintenant, j'aimerais vous lire un verset, s'il vous plaît. On va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Je ne suis pas trop les notes. Tu me pardonneras, ma fille. Il est dit ceci, c'est pourquoi, on va le dire ensemble, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les légères afflictions du moment dont il est question dans ce passage-là, c'est quand même d'être parfois jeté dans une arène et mangé par un lion. Dans l'échelle des afflictions, je me dis, c'est quand même pas mal, hein, la légère affliction. J'aurais dit, celle-là, quand tu l'as, t'as tiré le pompon. Mais ce qui est intéressant, là, regardez, Paul dit, nous vivons des afflictions. C'est notre réalité, elle nous frappe, on a des blessures. Et l'homme qui parle, il a été abandonné, trahi de multiples fois. Il a eu une vie difficile. Il dit, oui, il y a ces afflictions qui nous frappent, mais elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et c'est de ça que je veux parler avec vous ce matin, c'est que ta blessure, ton affliction, peut produire un poids éternel de gloire. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de poids éternel de gloire? Est-ce que ça veut dire qu'on ressort de la célébration, on monte sur la balance, on a pris 2 kilos de poids? Ça serait une mauvaise nouvelle, ça. Oh, j'ai vécu un temps avec Dieu, j'ai pris 2 kilos. Oh. Bon, un poids éternel de gloire. Mais la gloire, c'est quoi? Quelle est l'image que vous avez de la gloire? On brille? Moi, parce que moi, j'aime les mots chrétiens, on les utilise toujours, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans vos têtes quand vous utilisez le mot. C'est quoi la gloire? Tu sors du culte, tu brilles. Les gens mettent des lunettes de soleil pour te regarder. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est tu parles qu'en versets. Tu dis que des versets. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est la puissance qui t'accompagne. C'est quoi la gloire? Mais en fait, quand tu regardes ce texte-là, lorsqu'il est dit que cela produit un poids éternel de gloire, le mot poids, littéralement, c'est le mot fardeau. C'est comme si on te mettait un espèce de vêtement hyper lourd sur toi. Et là, tu reçois un poids, boum! Et la Bible, et Paul dit, c'est un poids de gloire. Le mot grec pour gloire, il a rien à voir avec ce que nous, on pense que c'est. Là, ici, c'est le mot doxa. Doxa, ça veut dire réputation. Donc, j'aurais pu traduire ce verset, nos légères afflictions, lorsque on les remet à Dieu, en fait, lorsqu'on les dépose en Dieu, eh bien, on se retrouve revêtu, on nous met un vêtement extrêmement lourd qui fait qu'on a une grande réputation. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il est en train de parler du monde spirituel. Il dit les choses d'ici, elles sont passagères, les choses invisibles, elles sont éternelles. Mais je vais vous dire ce que Paul dit sur nous, sur vous ce matin. Paul est en train de nous dire, vous allez tous vivre des afflictions. Vous allez avoir des années mauvaises parfois. Parfois, le 2 janvier, tu es déjà fatigué de ton année. Moi, je sais pas. En fait, je crois qu'on vit dans un rêve. Parce que plus les années avant, je me dis, l'année dernière, c'était galère. Hein. Et en fait, celle qui arrive, elle galère aussi. Mais tu le sais qu'à la fin. Parce qu'en fait, tous les ans, il y a des trucs qui arrivent. Et puis plus tu vieillis, plus c'est le cas. Parce que tu es un peu plus malade, tu perds des proches, parce qu'on n'est pas éternel. Tu fais face au deuil, en général, plus souvent quand tu es plus âgé que quand tu es plus jeune. Donc tout ça. Et Paul dit, mais en fait, vous allez en vivre des afflictions. Ces afflictions-là, elles devraient vous terrasser. Parce que ce sont des blessures dans l'âme, ce sont des blessures qui ont le potentiel de vous lier, de vous empêcher. Et l'enfer a les yeux sur vous. L'enfer cherche les failles dans nos vies. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche les failles. Et les failles qu'il va trouver, ce sont nos blessures. Et Paul dit, vous vivez des afflictions, ces afflictions devraient détruire vos cœurs. Mais quand vous les remettez à Dieu, le monde spirituel regarde Et il vous voit avec un poids et une réputation qu'il ne comprend pas. Le diable ne peut pas comprendre comment ça se fait que tu aies vécu tant de blessures et que tu sois encore là ce matin. Il comprend pas. Il comprend pas comment ça se fait. Tu as été trahi tant de fois. Tu as été abandonné tant de fois. Tu as vécu tel deuil tant de fois. Tu es tombé malade tant de fois. Et le diable pensait que c'était fini. Il avait brisé ton cœur. S'il brise ton cœur, il brise les sources de la vie qui sont en toi. Mais Paul nous dit, ces afflictions, quand on les remet à Dieu, elles produisent un poids de gloire. Ça te positionne. Dans le monde spirituel, les anges, les démons, tout ce qu'il y a, ils te regardent et ils disent, mais quel homme incroyable, quelle femme incroyable. Il aurait dû être à terre, mais parce qu'il s'est tourné vers Dieu, il a remis tout entre les mains de Dieu. Dieu lui a donné un poids supérieur. Il n'y a pas de prière plus puissante que la prière d'une femme ou d'un homme restauré. Je veux vous le dire, nous on croit que ce sont les parfaits qui ont les prières les plus puissantes. On croit que si tu as jeûné pendant 6 mois, ta prière est puissante. La prière la plus puissante, c'est celui qui était à terre, qui aurait dû rester à terre. Il a 1000 raisons de rester à terre, mais il prend sa blessure, il la remet à Dieu. Dieu fait ce qu'il a à faire avec lui, il se remet debout et là il se remet à prier. Quand tu te remets à prier, les choses changent. Le poids éternel de gloire. Je prie dans le nom de Jésus que nous tous qui sommes là, Seigneur, ce matin, toutes nos blessures, nous ne les mettions pas sous le tapis ou nous ne les acceptions pas comme un état de fait. Nous voulons les prendre et nous voulons te les remettre. Et je déclare qu'aucune de nos blessures ne sera le point final de l'appel de Dieu, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu sur notre vie dans le nom de Jésus. Amen. Refuse que tes échecs soient une cause d'abandon. Et j'ai pris quelques personnages, et on va aller rapidement dans les personnages, mais j'ai pris quelques personnages juste pour qu'on voit leur vie, mais surtout comment eux, ils ont rebondi. Comment ils sont revenus dans la course. Le premier que je veux voir avec vous, en fait, j'aurais pu tous les prendre, ça aurait fait une prédication un peu longue. Le premier que je veux voir avec vous, c'est Abraham. La Bible dit ceci, le contexte, il est vraiment spécial d'Abraham. Parce que nous, vous savez, Abraham, il a eu un appel de Dieu. Pas un appel téléphonique, hein, un appel de Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé, il lui a dit, d'ailleurs, si je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu lui a dit dans son appel ? Tu seras une grande nation, père de la foi, je ferai de toi le père d'une multitude. Ben, en fait, on va tous répondre pareil. Moi, pour moi, Abraham, c'est le père de la foi, le père de la multitude. Et si je devais résumer son appel, c'est de dire, Dieu lui a dit d'aller prendre le pays promis. J'ai une terre et un peuple pour toi. Mais quand tu regardes l'appel d'Abraham, c'est un appel à quitter. D'ailleurs, il sait même pas où il va. C'est pas le pays qui est important pour Abraham. Parce que si c'était le pays important, Dieu lui aurait donné la destination, non? Mais Dieu lui parle pas de la destination. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé de la destination? Parce qu'il la connaissait déjà. En fait, il y avait eu un appel dans sa famille déjà. Dieu avait parlé à son père Térak. La Bible dit ceci, parce que vous me regardez bizarrement, vous ne croyez pas. On va y aller. Genèse, chapitre 11, verset 31, s'il vous plaît. Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était fils d'Aran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Abraham connaissait la destination. C'est pour ça que Dieu n'a pas eu besoin de lui redire. Abraham, par contre, devait quitter. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie. Et il lui a dit une chose fondamentale, quitte la maison de ton père. Il faut comprendre une chose, et vous tous qui avez fait quelque chose pour Dieu ou qui marchez par la foi au moins une heure par an, vous avez vécu ça, c'est que on prend des décisions, on se met en route vers ce qu'on a discerné, vers ce qu'on a vu. Lorsque Dieu te parle, lorsqu'il met une promesse, toi dans ta tête, tu lui donnes une forme. Hein. Si Dieu te dit, par exemple, je vais pourvoir à tes besoins, toi tu te vois dans une grande villa d'entrée. On donne une forme dans nos têtes à ce que Dieu nous dit, hein. C'est normal ça. Et Abraham, avec sa famille, ils ont dû donner une forme à ce que Dieu leur avait dit. Ça devait avoir du poids dans leur cœur pour qu'ils quittent tout pour aller vers Canaan. Rappelez-vous Canaan. Canaan, c'est pas un endroit tranquille. Il y a que des peuples hostiles à Canaan. Ils sont tellement hostiles que Josué et les espions vont lui dire, il y a que des géants là-bas. Donc, ils partent parce qu'il y a quelque chose qui les a poussés. Il y a une motivation. Ils partent vers Canaan. Mais la Bible dit qu'alors qu'ils sont en route, ils vont s'arrêter à Haran ou Charan. Ça veut dire un endroit montagneux, mais ça veut dire aussi le lieu sec. Vous allez me dire, ils sont allés dans un désert après, c'était sec aussi, mais là, il y a quelque chose de spécial. C'est qu'ils ont voulu faire ce que Dieu leur demandait. Ils sont partis en famille pour vivre la promesse de Dieu, mais le responsable, Térak, le papa, celui qui a reçu la vision, celui qui aurait dû être le moteur, celui qui aurait dû être celui qui impulse l'énergie, celui qui te dit quand tu as envie de t'arrêter, il devrait te dire non, s'arrête pas. Celui, lorsque tu es découragé, qui te dit te décourage pas, on continue à y aller. Ben, ce Térak-là, il s'est arrêté. Et il a fait arrêter tout le monde. Et ils se sont retrouvés dans un lieu de pierre, un lieu de cailloux, un lieu sec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, en chemin, tu te mets en route parce que Dieu t'a donné une promesse, mais la destination dans laquelle tu arrives, c'est une destination pourrie. Je vais te dire un truc. Ne confonds pas les étapes et la destination. Ne t'arrête jamais à une étape. Ce qui compte, ce n'est pas l'étape. C'était pas un problème, Charan, si tu le traversais. Ça devient un problème lorsque tu t'y arrêtes. Dieu arrive, il va voir Abraham, il lui dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays. Et je connecte ça à la blessure. Vous savez, lorsqu'on a mis beaucoup, lorsqu'on a cru à une vision, lorsqu'on a cru à un père qui nous a conduits, lorsqu'on a cru à des paroles et que cette personne qui les incarnait s'arrête, toi, tu es dégoûté. Tu es abattu. Et quand on te dit, il faut y aller, tu dis, ah, c'est bon, j'ai déjà fait une fois. J'ai déjà tout quitté pour cette vision. J'ai déjà tout donné pour cette vision. Et finalement, regarde où on est dans un lieu qui est sec, un lieu qui produit rien, un lieu qui fait rien. Et ce genre de blessures-là, ce sont les blessures, comment dire, c'est les blessures de l'écœurement émotionnel, les blessures du comment dire, tu te dis, on m'y reprendra plus. Mais c'est pas une personne que tu vises, en fait. Et toi, en tout cas, peut-être toi tu vises une personne, mais la réalité, c'est que ça te vole ta capacité à croire à la vision. Et là, après, tu as Romaric qui arrive en septembre. Bon, lui, vous savez comment il est, il danse et tout, comme ça. Et après, il vous dit, oui, cette année, Dieu nous a dit de faire ça. Et toi, tu es sur ta chaise et tu dis, c'est bon. Moi, Térak, je suis déjà allé une fois, on m'a dit Canaan, mais la réalité, c'est que je suis à Charan et il ne se passe rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cette saveur-là, dans votre vie? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Mais j'aime comment Dieu vient. Dieu vient parler à Abraham pour lui dire « il est temps que tu quittes ». Quand la déception veut venir éteindre la vision, Dieu est capable de te guérir de ta déception, mais surtout de donner du poids à la vision. Vous savez, il était plus simple pour Abraham de suivre son père, mais Dieu dit à Abraham maintenant « arrête de te cacher, c'est toi qui dois aller prendre possession du pays promis ». Je vais vous dire quelque chose de la part de Dieu. Arrêtez de vous cacher derrière les déceptions que d'autres ont faites et qui vous ont impacté. Parce que si on s'arrête à cause d'un Térak et qu'on y meurt, Dieu ne nous a pas appelés à nous à y mourir dans ce pays-là. Chacun sa responsabilité devant Dieu. Arrête de te cacher derrière un mauvais leader, un mauvais mari, un mauvais papa ou je sais pas quoi. Moi, je pourrais vous citer une liste de 10 personnes au moins. Je pourrais dire, à cause d'eux, ma vie doit être nulle. Mais la vérité, c'est que Dieu vient te voir et te dit, Abraham, sors, arrête avec ça, arrête de te cacher. Tu vas y aller à Canaan. Mais tu dois prendre la promesse pour toi. Ce n'est pas la promesse de ton père, c'est aussi ta promesse à toi. Je veux vous dire de la part du Seigneur, frères et sœurs, et je déclare dans ce lieu que jamais aucune blessure prenne plus de poids dans ta vie que ce que Dieu t'a dit pour ta vie. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si je ne suis plus en mouvement vers le pays que Dieu m'a montré hier, c'est que la blessure a pris plus de poids dans ma vie que la parole de Dieu elle-même. Et je peux retourner voir Dieu et lui demander la nouvelle étape ou la nouvelle vision. Dieu est extrêmement, comment dire, régulier. Il te dit toujours la même chose. Toi, tu changes d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Dieu s'adapte avec toi. Pourquoi? Vous savez, nous, on croit que c'est Dieu qui aime nous faire faire des détours. Mais non, Dieu s'adapte à tes détours, à toi. C'est pas pareil. Mais la vérité, c'est que si tu laisses, si dans ta vie, le mouvement est passé sous des blessures, sous des déceptions, c'est que la déception a pris plus de poids que la vision. Et je crois qu'il y a des moments donnés, on a besoin de revenir devant Dieu, de reprendre nos anciennes paroles, de faire comme Abraham, de se rappeler qu'il y avait une parole qui disait qu'il faut aller à Canaan et de la mettre devant Dieu. Et Dieu va commencer à te parler, il va te dire, mon ami, quitte cet endroit où tu t'es mis. Quitte cet endroit sec, ce n'est pas pour ça que tu as été sauvé. Abraham, ça signifie le père d'une multitude. À cette époque-là, il s'appelle Abraham, le père élevé. C'est déjà bien, mais Dieu avait plus pour lui. Je veux te dire, Dieu a plus pour toi. L'ennemi va tout faire pour t'enfermer dans des blessures, dans des déceptions. Des déceptions, tu en as eu, je vais t'annoncer une parole qui vient de la part de Dieu, il y en aura encore. Jésus a été déçu par Judas. Dans son équipe, dans le gars avec qui il mangeait, il dormait. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est quand même allé à la croix. Parce que la vision était supérieure dans sa vie. Vous savez, une chose que je disais à Romaric tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les mots, parce que même le vocabulaire est trop faible. Ce matin, on parle d'une chose, c'est que de l'esprit. Dire, je ne peux pas guérir ton cœur, moi. Je ne peux pas faire tomber les barrières que des blessures ont pu mettre dans ta vie. Le seul qui est capable de faire ça, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire que ça va se faire comme ça. Mais des fois, ça prend du temps. Quand une blessure est profonde, il faut aller profond. Jésus a dit une chose, vous savez, Jésus a dit une chose importante. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, d'accord ? Pour proclamer la vue aux aveugles, pour amener aux captifs la délivrance et pour guérir, pas les corps, hein. Il le fait, mais dans son énoncé de mission, Jésus dit « les cœurs brisés ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Ce n'est pas être fleur bleue que de dire à des moments donnés, mon cœur est brisé. Et moi, je vais te dire, ta guérison commence par là d'ailleurs. Quand tu arrives et tu dis, je suis brisé, et que tu présentes ça à Dieu, et que là, tu sens que... Vous savez, des fois, c'est plus simple de cacher quelque chose ou de plus en parler parce qu'on l'oublie. Mais c'est pas parce que tu l'oublies que ça n'existe plus. Dieu veut te relever et te transformer. J'arrive à la fin. Je vais parler d'un deuxième personnage. C'est Jacob. Ou Israël, parce que c'est le même. Jacob, dans sa vie, il va y avoir une double peine. Cet homme, si vous vous rappelez un peu son histoire, c'est un homme qui, pendant des années, va batailler avec Dieu. Il part de loin, Jacob. Dis à la personne que c'est toi un peu comme toi. Il part de toi aussi, tu pars de loin. Jacob part de très loin. Déjà, vous connaissez son histoire, son nom ça veut dire le trompeur. Déjà, quand tu t'appelles comme ça, tu sens que tu as une bonne destinée. Mais en plus de ça, ben, vous connaissez, il va escroquer son frère. Il est tordu dans sa tête. Jacob, c'est le gars, tu n'as pas envie de l'avoir à Noël à ta table. Hein, parce qu'il est capable de te piquer ton assiette. Mais il est comme ça, et puis il fait plein de plans. Après, pour reconquérir son frère, il envoie d'abord les femmes et les enfants au cas où. Ça, c'est quand tu es très courageux devant les femmes et les enfants. Moi, j'arrive à la fin. Et puis, Dieu va parler à sa vie petit à petit. Il va avoir plusieurs rencontres avec Dieu. Et le summum de sa rencontre avec Dieu, c'est ce moment où il va se battre avec l'ange de l'Éternel. La Bible dit qu'il va repartir boitant, mais surtout, Dieu va changer son nom. Il va dire, tu ne t'appelles plus Jacob le trompeur, mais tu t'appelles Israël. Tu t'appelles Israël. Israël, c'est le soldat de Dieu, c'est l'armée de Dieu. Il passe d'un trompeur à un soldat de Dieu. Et là, son identité change. Des années de processus avec Dieu pour libérer ce qu'il était vraiment au-dedans de lui. Parce qu'il a toujours été Israël, mais il ne le savait pas. Et Dieu libère cet Israël-là, et on connaît la puissance prophétique de son nom, tout ça, mais Surtout, là, il devient Israël. Il a des fils qui sont les patriarches d'Israël. Vous les connaissez, Zabulon, Nephtali, tout cela, tous les noms sympathiques. Là. Ils sont là, ce sont des patriarches. Et il a un fils qui s'appelle Joseph. La Bible dit qu'il aimait beaucoup Joseph. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet ce matin, mais c'était un problème, ça. Dans cette famille, il y avait des préférences parmi les enfants. Ne faites jamais de préférences parmi vos enfants. Dieu n'en fait pas, en tout cas. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais la parole nous dit que Joseph, connaissez l'histoire, il va être vendu par ses frères et Israël va croire qu'il est mort. Parce qu'on lui ramène le manteau avec du sang dessus. Il croit qu'il est mort. Et instantanément, il redevient Jacob. Des années de processus avec Dieu pour devenir Israël, en une perte, un deuil, une blessure, il redevient Jacob. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie? Vous avez l'impression qu'il faut des années pour arriver quelque part avec Dieu, et un événement me fait tout perdre. Ça parle à quelqu'un, ça? Une perte, un deuil. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un, vous connaissez la douleur du deuil. En plus, lui, c'est son fils préféré, le chouchou de la famille. Il perd Joseph et il s'éteint en un instant. Et parfois, nous, dans notre marche, il y a des événements qui nous éteignent. Un deuil, ça peut nous éteindre, littéralement. Je pense à un époux, une épouse qui veulent faire des choses pour Dieu. Ils sont là à l'église et tu perds ta moitié et tu as l'impression que ta vie s'arrête. Le Israël redevient un Jacob. Tu peux perdre un enfant, mais des fois, c'est pas une perte dans le sens du deuil. Parfois, c'est une amitié. Parfois, on marche des années avec quelqu'un, il y a un événement et boum! Parfois, c'est une trahison qu'on n'a pas vue venir. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui peut créer une blessure émotionnelle, mais à un moment donné, une blessure émotionnelle qui vient et qui arrête tout. Et ça, tu le sais parce que tu vas à l'église, plus la même saveur. Tu vas dans la présence de Dieu, c'est pas pareil. C'est la blessure qui est devenue une porte ferraillée. Mais Dieu veut ouvrir les portes ferraillées. Il n'est pas possible. Je veux te dire quelque chose. Israël dort en toi. Même quand tu redeviens Jacob, tu n'as pas cessé d'être Israël. Il est toujours en toi. C'est la blessure qui est en train de l'éteindre. C'est la perte qui est en train de l'éteindre. Et il faut, vous savez, j'aime notre Dieu parce que si la perte nous éteint, notre Dieu, c'est le Dieu des résurrections. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le Dieu des résurrections. Et la Bible dit ceci, j'arrive à la fin. Si l'équipe peut me rejoindre, s'il vous plaît. Il est dit ceci, c'est que, vous savez, il y a Abraham, il y a Isaac et il y a Jacob. Okay, ça, vous vous rappelez de ça? Abraham, Isaac, Jacob, ils sont trois. C'est les trois, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La promesse que Dieu avait fait à Terah, qui a été donnée à Abraham, eh bien Abraham l'a transmise à Isaac, qui est lui-même le fils de la promesse, et Isaac l'a transmis à ses fils. Et dans ses fils, il y en a un qui a été écarté, et il y a Jacob qui a porté la promesse. Ok, ça vous me suivez jusque-là? Et donc, Jacob avait grandi avec... Nous, on croit, que d'avoir un meilleur pasteur, ça te rend la vie plus simple. Nous, on croit que d'avoir... On se formate des choses dans nos têtes. Si j'ai telle église, tel environnement chrétien, si mon mari devient comme ça, eh bien là, ça va être puissant. Eh bien, Jacob, lui, il a quand même grandi avec comme papa Isaac, fils de la promesse, et son grand-père, c'est Abraham, le père de la foi. Combien croient que quand même... Quand tu grandis dans cet environnement, tu dois être un peu solide dans la foi. C'est bien d'avoir Joël Sens avec toi, mais si t'as Abraham, non? Donc on a un homme qui a grandi, sa vie, ça doit être que de la foi, que de l'envie d'avancer, que des paroles positives. Donc il a grandi imbibé, imprégné de cette réalité que Dieu allait donner un pays et une multitude. C'était sa réalité, son identité. D'ailleurs, plus tard, c'est la promesse qu'il va transmettre lui-même. Mais donc on a cette réalité, non, c'est la promesse qu'il a reçue. Mais là, on a un événement qui vient le frapper à cause de cet événement qui le frappe, son esprit s'éteint. Il n'est plus reconnaissable. Il a tout perdu. Il est redevenu l'ancien Jacob. Les principes, c'est plus que des principes, mais ils ont plus de vie, ils ont plus de puissance. Et lorsque tu regardes la vie de Jacob, donc non seulement il a cette promesse-là, mais juste après, lorsque je zoome un peu plus tard, lorsque Joseph va les rapatrier, parce que si vous connaissez pas l'histoire, Joseph, il n'était pas mort. Hein. Et on y vient. Mais lorsqu'il va les rapatrier tous en Égypte, la Bible dit que, et c'est dans les psaumes que c'est écrit ça, que Joseph est devenu en Égypte une multitude. La multitude, ça vous fait pas penser à la promesse, ça ? Dieu avait dit à Abraham, tu seras une multitude. Et en Joseph, les psaumes nous disent qu'Israël est devenu une multitude. D'ailleurs, c'est pour ça que les Égyptiens ont tout fait pour les brimer parce qu'ils se multipliaient trop. Mais lorsque je reviens à Jacob, quand je lis cette histoire, je me dis, mais vous imaginez, il a grandi avec cette promesse, on lui a transmise, mais une perte est venue, une blessure est venue, lui le voler et l'éteindre, et pourtant, il était à ça de la voir s'accomplir. À ça de la voir s'accomplir. Parce que Dieu lui travaille même quand tu es découragé. La Bible dit dans Habacuc, si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Et là, on a cet homme-là, et je suis étonné, puis je vais le lire pour vous. Dans Genèse 45, il est dit ceci. Lorsque, il y a toute l'histoire, les frères de Joseph vont en Égypte, et puis là, ils voient que Joseph est vivant, et Joseph dit, est-ce que mon père est vivant? Ils disent oui, et là, Joseph n'y va pas, mais il fait ramener des chars avec de la nourriture, et puis des trésors, tout ça. Et lorsque les frères viennent et qu'ils disent à leur père, Joseph est vivant, on va lire ensemble, ils lui rapportèrent, Genèse 45, 27, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils vit encore, j'irai et je verrai avant que je meure. Attention, juste avant, je ne l'ai pas mis, mais il a vu les chars, il a vu les cadeaux, il est resté éteint. Mais quand il a entendu que Joseph était vivant, son esprit s'est ranimé. Dieu est capable de te parler et sa voix est capable de ranimer tout ce qui a été mis en sommeil. C'est la raison pour laquelle nous ne perdons pas de temps en tant que croyants. Nous rachetons le temps. Tu peux t'arrêter 10 ans, mais le jour où tu te ranimes, tu es exactement au même point où là où tu t'étais arrêté. Dieu ne t'a pas rétrogradé. Dis à la personne que t'es toi, Dieu n'est pas le Dieu des rétrogradations. Dieu construit des vies. Dieu construit ta vie, ma vie. Et l'esprit, et Israël dit, moi j'aime, ça c'est un des versets, chérie, on va faire un poster à la maison avec ça. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, il était toujours là, Israël, mais il était caché sous une blessure, sous une perte, sous une raison. Il y avait des multiples raisons. La perte, c'est une douleur la plus grande. Et lui, il croyait que à cause de ça, ça avait tout éteint. Mais ce qui me touche dans cette histoire, c'est que il a fallu une perte pour éteindre Israël qui devienne Jacob. Mais il a fallu une nouvelle. Il a fallu une parole pour qu'il redevienne. Nous, nous croyons qu'une perte nous éteint et qu'il faudra des années pour revenir. Je te dis que c'est un mensonge de l'ennemi parce qu'à partir du moment où tu te remets en course, où tu dis, Seigneur, ça c'est dur, cette trahison elle est dure, cette souffrance elle est dure, tu pleures sur ça, c'est dur. Dieu dit pas arrête ton cinéma. Hein. Quand c'est dur, Jésus a pleuré pour... Vous savez, regardez ça, Jésus a pleuré pour un gars qui savait qu'il allait ressusciter. Ben moi, je pleure pas. Je dis, vous allez voir. Mais il pleure quand même. C'est pour nous dire, c'est pas pour lui, c'est pour nous dire à nous qu'il sait nos pertes. Une perte, c'est une perte. c'est douloureux. Mais à un moment donné, ça ne peut pas devenir ton identité. Je refuse dans le nom de Jésus d'être seulement le produit de mes abandons, de mes trahisons, de mes pertes, de mes deuils ou de tout ce que vous voulez. Il y a plus que ça pour ma vie. Je ne veux pas que Dieu nous libère de ces paroles, on m'y reprendra plus, ou de ces trucs, je prends du retrait, ou je sais pas quoi. Toutes ces choses sont le fruit de nos blessures. Je prie ce matin qu'il y ait des Israël qui se remettent en course, qu'il y ait des, en un instant, et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Ça, c'est bon, ça. Je pense à Moïse qui se promenait tous les jours. Vous savez, Moïse, sa vie, elle qui croyait qu'elle était bousillée. Il avait voulu sauver son peuple. Il avait tué un homme pour sauver son peuple. Il est dit dans Hébreux, il croyait que son peuple comprendrait que l'Éternel accordait la délivrance par sa main. Donc lorsque Moïse a tué l'Égyptien, il n'y est pas allé avec, c'était pas une motivation humaine. Il croyait que Dieu l'envoyait. Il avait reçu un appel de Dieu. Mais il ne savait pas comment le manifester. Alors il a tué un homme, sûr que ça. Alors si Dieu t'appelle, tue personne. Mais en tout cas, lui, dans son époque, dans sa saison, il tue un homme, il se retrouve dans le désert pendant 40 ans à s'occuper de brebis qui ne sont pas les siennes. Il n'a plus rien. Il est prince d'Égypte. Il se retrouve sans rien. Il avait une famille en Égypte. Il ne l'a plus, sa famille. Nous, on lit l'histoire de Moïse rapidement, mais il n'a plus sa famille. Il se retrouve seul. Il n'a plus rien à lui. Mais la Bible dit une chose. La Bible dit une chose très importante. Et c'est très important pour nous ce matin. Il est dit ceci. Alors qu'un jour, il promenait le troupeau de Jéthro, son beau-père, à Horeb, il leva les yeux. Et il vit un buisson qui ne se consumait pas. Quand tu as la tête baissée, tu te prives de placer pour te relever. Frères et sœurs, le buisson peut-être 40 ans qui brûlait. Ça faisait peu 40 ans que Dieu l'attendait. Je ne crois pas que Moïse, Dieu lui a dit punition 40 ans. Je crois que les 40 ans sont le fruit de son cheminement à lui. C'est parce qu'il a mis 40 ans. Seigneur Jésus, fais que nous ne perdions pas 40 ans. Frères et sœurs, on se parle en français. Des fois, il y a des croyants, leur vie est limitée parce que ça fait des années qu'ils vivent avec une blessure. La blessure est devenue le canevas qui les bloque. Mais j'ai envie de te dire ce matin, lève la tête, lève les yeux. Il y a un buisson qui ne se consume pas. Il y a la présence de Dieu qui est toujours là. Il y a la possibilité de vivre le cœur à cœur. L'électrochoc spirituel, la résurrection spirituelle. Dieu est capable de venir souffler dans des endroits de ton cœur inaccessibles, brisés, et de les guérir. Mais par contre, il faut que toi, tu lèves la tête. Il faut que tu lui donnes la possibilité. Lève la tête. Et la deuxième chose, tu veux re-rentrer, tu veux faire jaillir l'Israël, tu veux reprendre ta course. Ce message, frères et sœurs, quand je l'ai préparé, j'ai pleuré moi-même. Parce qu'en vrai, j'en ai eu plein de blessures. Et je sais que j'en aurai plein. Mais je ne veux pas que ce soit ces blessures qui viennent limiter les promesses que Dieu m'a faites. Elles sont plus grandes. Je déclare que les promesses que Dieu t'a faites sont plus grandes. Alors il y a ceci, il a levé les yeux pour voir, et la première chose qu'il a fait, alors qu'il arrive devant ce buisson, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas ce qui se passe, mais la première chose que Dieu lui dit, et ça c'est fondamental, si tu veux être restauré, c'est voici ce que tu dois faire. Première chose que Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les principes de fonctionnement de ce monde, les principes de « j'agis comme ça parce que j'ai vécu ça », les principes de « je suis blessé, c'est normal », toutes ces choses qui sont totalement normales. Dieu dit « attends, ça c'est normal dans la terre des hommes, mais là tu es sur mon territoire à moi, là c'est pas les mêmes principes, là c'est les principes que les abattus sont relevés, les principes que les morts sont ressuscités, les principes que l'enfer peut t'envoyer un bazooka, toi tu es relevé. Oh, tes souliers de tes pieds, frères et sœurs, il est temps d'enlever nos chaussures, le territoire sur lequel nous allons, ce n'est pas juste la réflexion, c'est pas de l'autosuggestion. C'est pas je vais aller mieux. Non, c'est des principes différents. C'est pour ça qu'on comprend pas souvent comment Dieu fonctionne. Parce que quand tu rentres sur son territoire, enlève tes chaussures. c'est plus les mêmes principes. Ça veut dire quoi aussi? Accepte que c'est plus tes pas qui vont te diriger, c'est plus ta propre volonté. Oui, tu as raison, mon frère, ma sœur, tu as raison. On t'a fait ça, c'est inadmissible, tu devrais mourir. L'enfer te dit, oui, tu as raison, on t'a fait ça, tu as souffert, c'est inadmissible. Mais Dieu vient, il te dit, enlève les chaussures de tes pieds, parce qu'ici, c'est pas les mêmes règles de fonctionnement. Ici, oui, tu devrais mourir, mais ça va produire en toi un poids éternel de gloire, que même l'enfer va regarder, va dire, mais comment ça se fait qu'il est encore là? Amen. Dis à la personne à côté de toi, t'es encore là. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. J'ai prié, Seigneur, je te demande ta grâce. Pardonne-moi mes mots qui ne sont pas à la hauteur de la grandeur de ton cœur. Mais je crois qu'on est à un buisson. Il y a un buisson pour nous ce matin. Ça fait 10 jours que je prie pour nous. Et je sais que Dieu nous attend. Parce que quand tu es brisé, le plus brisé, c'est le cœur du Père. Et je veux déclarer que... Et Dieu n'est pas là en train de te regarder en méprisant ce que tu as vécu. Oui, Dieu prend au sérieux les blessures du cœur. Il a donné Jésus pour ça, donc il le prend très au sérieux. Mais la vérité... c'est qu'il est aussi là pour nous relever. Il est aussi là pour te dire ce que tu as vécu maintenant, on va le guérir, on va le laisser dans ton passé, mais surtout, ça n'aura plus de puissance dans ta vie que mes promesses pour toi. Je veux te dire que les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. L'apôtre Paul a dit une chose, une des choses que Dieu aime faire, c'est qu'il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages, les faibles pour confondre les fortes. Oui, peut-être que notre parcours n'est pas idéal. Peut-être qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris, des choses qui m'ont profondément touché, qui sont là comme des poids, qui me bousillent la vie. Mais je veux te dire une chose, c'est que Dieu est capable de guérir ton cœur afin que les fleuves d'eau vive coulent à nouveau de ta propre source. Et puis surtout que tu puisses redevenir non pas ce que la blessure dit de toi, mais que tu sois ce que Dieu dit de toi.